Paris 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. RFI Matin commence aujourd'hui, jeudi 23 avril 2026. On se penche principalement sur ces négociations aujourd'hui entre Israël et le Liban. C'est à la une de votre journal, Julien Coquelran, M1.
Bonjour Andréane, à la une, effectivement, Beyrouth qui espère obtenir une prolongation d'un mois de la trêve fragile conclue vendredi dernier. Les négociations toujours suspendues en revanche entre l'Iran et les États-Unis. Elles pourraient reprendre au Pakistan dans les prochains jours, selon Donald Trump. Et en attendant, les habitants d'Islamabad, où elles doivent se tenir, expriment leur ras-le-bol dans une capitale complètement bouclée. À la une également, la fin du blocage de la Hongrie et le prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine qui devrait être validé aujourd'hui. À New York, le grand oral hier de Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, et puis des agriculteurs victimes du réchauffement climatique qui attaquent en justice une compagnie publique d'électricité. Nous sommes en Corée du Sud à la fin de ce journal.
L'extension d'un mois du cessez-le-feu et son respect strict par Israël.
C'est ce que va tenter d'obtenir aujourd'hui le Liban à Washington, alors que les deux pays se retrouvent de nouveau pour poursuivre leurs négociations, bientôt une semaine après la conclusion d'une trêve qui semble depuis n'être entrée en vigueur que sur le papier. Encore 4 morts hier, dont une journaliste, dans des bombardements israéliens sur le Liban. La Maison-Blanche affirme malgré tout vouloir parvenir à un accord de paix global entre les deux pays. Un souhait partagé notamment par les habitants du nord d'Israël qui peinent, ceci dit, à y croire sous les attaques du Hezbollah. Reportage Guilhem Deltaï.
Le kibboutz Sassa se trouve à 1,5 km de la ligne de démarcation. À l'horizon, le mur de séparation construit par Israël et le territoire libanais. Grégory Kanovitch vit là depuis 45 ans. Ce jeudi, il attend de son gouvernement qu'il transmette un message.
Tout simplement, nous n'avons aucune intention de faire la guerre contre le Liban.
La guerre n'est pas du fait d'Israël, juge-t-il.
Je sais qu'il y a des terroristes, le Hezbollah, et ils font tout le temps des attaques contre nous. Ce n'est ni le gouvernement libanais, ni le peuple libanais.
La responsabilité du Hezbollah est aussi soulignée par cet homme venu pour travailler dans le kibboutz, mais il a toutefois le sentiment que les choses avancent dans le bon sens.
Nous sommes optimistes vis-à-vis de la paix. Jusqu'à maintenant, les médiateurs ont fait un bon travail et ils doivent faire encore un petit effort. J'espère que le Hezbollah disparaîtra et ne nous fera plus de problèmes.
Un petit groupe de garçons se rassemble sur un terrain de foot. À quelques mètres de là, Alon Stoller veut aussi croire à la paix, mais il ne la voit pas encore.
Hier, il y avait des bombardements dans le coin, en Israël. Hezbollah est encore attaqué. J'imagine qu'ils veulent casser les conversations entre les deux pays. Et j'espère qu'ils ne vont pas réussir à le faire. Et j'espère que tout le monde va garder les armes bas et qu'ils vont donner une chance à la paix.
Le Hezbollah rejette ces négociations et pour ce jeune père de famille, le souhait relève encore du rêve. Guilhem Deltaï, Sassa, RFI.
Et avant la reprise des discussions à Washington, Israël affirme ne pas avoir de désaccord sérieux avec le Liban et appelle le pays à travailler ensemble contre le Hezbollah.
À la une également, une reprise possible des discussions entre l'Iran et les États-Unis dans les prochains jours.
L'optimisme prudent de Donald Trump alors que la situation reste tendue dans le détroit d'Hormuz. Hier, le président du Parlement iranien a exclu toute réouverture du détroit tant que les États-Unis maintiendront leur blocus des ports iraniens. L'armée américaine indique avoir fait rebrousser chemin à 31 navires depuis le début de ce blocus. Les gardiens de la révolution iranien ont annoncé pour leur part avoir saisi ce mercredi deux navires qui tentaient de franchir le détroit. Téhéran a salué hier les efforts du Pakistan qui assure la médiation, mais aucune délégation n'a encore été renvoyée dans le pays pour continuer de négocier. La porte-parole de la Maison-Blanche dit même que Donald Trump n'a pas fixé de dates limites pour recevoir une proposition de paix de l'Iran. Les habitants d'Islamabad sont, eux, beaucoup plus impatients. Tout est en place dans la capitale pakistanaise pour les prochaines discussions avec un impact très concret sur le quotidien, Ondine de Gaulle.
À Islamabad, cela fait plusieurs jours que la vie tourne au ralenti. Les principales artères sont bloquées, les transports publics suspendus et presque plus rien ou personne n'entre ou ne sort de la capitale placée en alerte rouge. Des milliers de policiers et de militaires montent la garde. Résultat, chaque déplacement est devenu un casse-tête. Les fonctionnaires et les employés de bureau ont été invités à travailler depuis chez eux et de nombreux ouvriers se retrouvent tout simplement privés de travail. C'est toute l'activité économique qui est paralysée. Et plus les délégations tardent à arriver, plus la frustration grandit. Dans son café situé près de la zone sécurisée où doivent se tenir les négociations, Sibratullah a vu la fréquentation chuter de moitié.
Comme beaucoup de routes sont bloquées, on a très peu de clients qui viennent. Et c'est devenu très difficile de faire venir les produits de l'extérieur de la ville, comme l'eau minérale, le beurre ou la farine. Ça prend énormément de temps, c'est vraiment compliqué. On demande au gouvernement que ces négociations se terminent le plus vite possible pour que l'activité puisse reprendre normalement.
Et ce n'est pas sa seule inquiétude. Avec la flambée des prix du carburant, le coût de la vie s'envole. Jour après jour, les négociations promises n'arrivent toujours pas et les restrictions sont sans cesse prolongées. Beaucoup se demandent désormais combien de temps ils pourront encore tenir. Ondine de Gaulle, Islamabad, RFI.
Et ce matin, l'incertitude sur les discussions entre Washington et Téhéran, les tensions dans le détroit d'Hormuz font grimper de nouveau les prix du pétrole, plus 4% sur les marchés asiatiques.
À la une aussi ce matin, Julien, une page qui se tourne enfin.
Celle du long bras de fer entre la Hongrie, l'Ukraine et l'Union Européenne, alors que Viktor Orban s'apprête à quitter le pouvoir et que l'Ukraine a fait redémarrer hier l'oléoduc Drujba. Budapest a fini par retirer ce mercredi son veto au prêt européen de 90 milliards d'euros destinés à Kiev. Il devrait être validé une bonne fois pour toutes aujourd'hui, une bouffée d'oxygène pour les Ukrainiens. Mais à quoi va servir cet argent? Question posée à Cyril Brett, expert associé à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de défense et de sécurité en Europe.
60 milliards sur ces 90 seraient destinés à renforcer la défense de l'Ukraine et toujours les défenses antiaériennes, qui sont en fait un ensemble de systèmes extrêmement coûteux, qui nécessitent d'être déployés en grande quantité sur l'intégralité du territoire. Et 30 milliards seraient destinés à une assistance macro-financière en gros à financer le fonctionnement de l'État ukrainien. C'est un prêt de 90 milliards sur plusieurs années qui ne serait remboursé qu'au moment et si l'Ukraine obtient des réparations de guerre de la part de la Russie. Donc, le déblocage de ces fonds qui auront lieu par tranche, ce serait évidemment une bouffée d'oxygène financière pour l'Ukraine et ce serait un signe nouveau de soutien de la part de l'Union européenne dans son ensemble à l'égard de l'Ukraine, puisque ce prêt de 90 milliards serait financé par l'Union européenne et non pas par les pays membres directement.
Les besoins de l'Ukraine face à la Russie qui continue de frapper, des bombardements russes ont fait au moins 2 morts et 8 blessés cette nuit dans la région de Dnipro. La Russie affirme de son côté qu'une frappe ukrainienne a fait 1 mort dans le sud du pays.
RFI 1h08 à New York.
Où se sont refermés hier les oraux organisés par l'Assemblée générale des Nations Unies pour entendre les candidats à la succession d'Antonio Guterres au poste de secrétaire général de l'ONU. Après Michel Bachelet, Rebecca Greenspan et Raphaël Grossi, l'ancien président sénégalais Macky Sall est passé en dernier, seul candidat africain en lice et pas forcément le mieux avancé, lui qui n'a jamais exercé de fonction au sein de l'organisation et dont la candidature n'a pas été soutenue ni par l'Union africaine ni par son propre pays, Juliette Dubois.
Pendant les 3 heures d'audition, Macky Sall s'est présenté comme un bâtisseur de ponts et a déroulé sa vision d'une ONU réformée en profondeur, diplomatie préventive renforcée, rationalisation des structures de l'organisation. Sur la dette africaine, il a estimé que la question mérite d'être traitée dans un cadre global. Macky Sall a également annoncé que s'il est élu, son adjointe serait une femme issue d'un pays du Nord. Il a mis en avant ses près de 40 ans de responsabilité publique.
Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous. Les dirigeants en Afrique, au G7, au G20, de ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement.
L'ancien chef d'État a aussi porté une revendication africaine forte, l'attribution à l'Afrique de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. Mais sa candidature n'est pas sans obstacle. Au Sénégal, des organisations de victimes des violences politiques de 2021 à 2024 ont publiquement contesté sa légitimité à briguer le poste. La prochaine étape du processus est fixée à l'été. Le Conseil de sécurité formulera une recommandation. La nomination du successeur d'Antonio Guterres est attendue avant la fin de l'année. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Ce n'est pas l'ONU mais la France que Gabriel Attal aspire pour sa part à présider.
Il n'est pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle de l'an prochain, mais l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron cache de moins en moins ses ambitions, comme le montre notamment ce passage obligé de tout aspirant à l'Élysée, auquel il ne déroge pas, la publication aujourd'hui d'un livre intitulé « En homme libre ». Pour l'occasion, Gabriel Attal a choisi le très chic 16e arrondissement de Paris pour sa première séance de dédicace, Raphaël Delvolvé.
Il y a du monde, hein. Ça n'est peut-être pas comparable à Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy, mais Gabriel Attal peut déjà revendiquer plusieurs centaines de lecteurs. Pas si courant pour un livre politique.
Non, il y avait beaucoup de monde, c'est une belle surprise.
C'est la première fois que je le vois en chair et en os, il est adorable.
Et si le patron de Renaissance assure vouloir attendre pour prendre sa décision pour 2027...
Qu'à l'issue de ces échanges, je prendrai une décision et je l'annoncerai aux Français.
Aucun dans la queue ne se fait d'illusions.
Sur vous maintenant.
Bah, merci.
Ce sera derrière vous. Voilà.
Ah, c'est sur moi.
Les lecteurs découvriront les confidences sur la vie privée de l'ancien Premier ministre, son homosexualité, son couple avec le commissaire européen Stéphane Séjourné, son enfance avec un père addict et des parents divorcés. Gabriel Attal assume cet étalage.
Moi, je parle de ma vie privée pour expliquer comment ma vie a nourri mes engagements politiques. Quand je parle du divorce de mes parents, du harcèlement que j'ai pu vivre, je peux multiplier les exemples, y compris sur mon orientation sexuelle.
L'opération vise aussi, voire surtout, à acter la rupture avec Emmanuel Macron, avec le récit de la dissolution dont Gabriel Attal, mis à l'écart de la décision, dit avoir beaucoup souffert. L'ancien chef de gouvernement vante également un nouvel exercice du pouvoir moins vertical à l'avenir, Une critique là encore à peine voilée qui fait déjà grincer des dents à l'Élysée.
Quand je m'engage, je pense avant tout à ça plutôt que de penser à ce que font les autres.
Raphaël Delvolvé.
Et puis, en Corée du Sud, des agriculteurs en procès contre le groupe public d'électricité du pays.
Victimes des intempéries renforcées par le réchauffement climatique, ils accusent l'entreprise de n'avoir pas suffisamment diminué son empreinte carbone et d'avoir ainsi contribué au dérèglement du climat. 5 agriculteurs se retrouvent aujourd'hui au tribunal pour faire valoir leur cause, Célio Fioretti.
Un recours en justice, la dernière tentative d'un agriculteur excédé par le réchauffement climatique.
Dans sa peau, dans sa tête, il en a ras-le-bol, paraît que ce monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un chien. gestes faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Qu'est-ce que je fais pour manquer de tout, me venger de vous rappeler pour ne penser que je mangeais le gouffre. J'étais là, planté debout, j'étais mal planqué. J'étais là, prêt de ramper à genoux quand j'étais taille. Des baffes, j'en foutrais des tailles. Y'a des tas de bouche à bouche, baissez la foudre de l'esclave. Vous écoutez mes braves, vous faites tourner les watts. Les gars, c'est un son à shooter les oies. Et vous, vous en doutiez, j'ai tout fait pour lutter contre tout gouffre. Et me contrôle de vous, d'où j'ai su ce dont je souffrais. J'ai tout à l'temps de tourner dur, toute blessure que j'ai bouffé. Puis c'est sûr, du sang des prophètes, couché jusqu'à trop être faible devant un faux frère. À pardonner faux, entre compères, veillé à guetter tard. Le veto, tant le ghetto est une conspète. Ce type est mal, dans sa peau, dans sa tête, il en a ras-le-bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Ce type est mal, dans sa peau, dans sa tête, il en a ras-le-bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Un pour tous et tous pour un. Tiens pour boulot, ma vie tient. On est tous sur un surin et ça fait mal. Putain, tu chiales, tu t'inspires dans tout un spliff pour un sale putain. Tiens, t'as le bonjour du juge bien. Où y'a plus un purin, c'est sûr bien. Où la foi, tu endures l'imburne. C'est facile à voir et vite à voir déçu devant les flics, un pavoir. Quand on se les vide, on est pur. Chacun vit sa place et suit sa voix. Si je m'assois ou vise la loi, je suis à chaque fois. Je vise ma patte, fais gise ma flamme, aiguise ma lame. J'évite la bague, ta faux bac et deal. Ma cam, le vice prend place. J'ai qui le temps va lui dire qu'il nous manquera. Et puis qui pour lui rendre grâce. Et la dalle où on te remplace. Moi j'ai ma clique et ma gamine, sans quoi c'est un champ de toile. Ce type est mal, dans sa peau, dans sa tête, il en a ras-le-bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Ce type est mal, dans sa peau, dans sa tête, il en a ras-le-bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse.
Dreams of bass.